France Culture.
Alors, la poésie d'Adrienne Rich m'a beaucoup émue parce qu'elle s'ancre dans le corps, le quotidien, les amitiés, les amours, et aussi les échecs, les défaites et parfois le découragement. Mais pourtant, elle est totalement déterminée. Dans son écriture, on y lit tout le temps la détermination justement à déconstruire et à abattre les systèmes d'oppression et de domination.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
La langue est le territoire de bien des luttes de pouvoir. Au programme de votre Book Club aujourd'hui, une poétesse qui affirme la puissance du désir comme force de subversion possible. Le rêve d'un langage commun, c'est le titre d'un recueil d'Adrienne Rich qui paraît pour la première fois en France. Il est l'occasion pour nous de vous faire découvrir cette autrice américaine. Poète, essayiste, féministe, lesbienne, disparue en 2012. Elle est encore largement méconnue dans notre pays, alors même que c'est une figure majeure de la littérature du XXe siècle. Nous en parlons aujourd'hui avec Lénaïque Cariou, qui co-signe la traduction de ce recueil, et Claire Starr, poète, lectrice de son œuvre. À 15h50, comme chaque mardi, Nicole Vulser viendra nous parler de l'économie du livre. Aujourd'hui, de retour des Assises nationales de l'édition indépendante, elle nous éclaire sur l'importance et les difficultés de ce secteur. En fin d'émission, nous jouerons comme chaque jour à notre grand jeu des pages musicales. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bonjour Lénaïque Cariou.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes l'une des deux traductrices avec Shira Abramovitch ce recueil des poèmes d'Adrienne Rich, Le rêve d'un langage commun, The Dream of a Common Language, poème 1974-1977. Il vient de paraître aux éditions de l'Arche dans la très belle collection des Écrits pour la parole et dans une édition bilingue, je le précise. Vous signez aussi avec votre co-traductrice une très jolie postface dans ce recueil qui s'appelle Qu'entendons-nous par nous, et qui permet d'éclairer la place de ces poèmes dans l'œuvre d'Adrienne Rich, de la présenter. On en reparlera tout à l'heure. Je signale aussi que vous êtes membre, vous-même autrice, chercheuse en littérature et membre de ce collectif de traduction transatlantique qui s'appelle Connexion Limitée. Et bonjour à vous Claire Starr.
Bonjour.
Merci aussi d'être là avec nous. Vous êtes poète, poétesse, performeuse. Vous avez également soutenu une thèse en littérature sur ce que vous appelez les queer féminismes littéraires. On en reparlera peut-être. C'était une thèse qui s'articulait autour des œuvres de Kathy Acker, Hélène Cixous, Violette Leduc et Audre Lorde. Et vous avez, au cours de votre parcours d'autrice, lu les textes d'Adrienne Rich. C'est à ce titre que l'on vous a invité à participer à cette conversation. Nous allons dans un deuxième temps de cette émission plonger vraiment dans le cœur de ce recueil qui nous vaut de vous recevoir aujourd'hui. Mais pour commencer, je voudrais qu'on présente un peu Adrienne Rich dans son ensemble. Et pour ouvrir la conversation, peut-être que vous pouvez nous dire tout simplement l'une et l'autre comment vous avez découvert cette autrice qui, je le disais, reste encore assez méconnue en France, même si heureusement on en parle de plus en plus. Lénaïque Cariou, pour commencer peut-être.
Oui, alors moi je l'ai découvert il y a quelques années, c'est relativement récent, à l'occasion en fait d'un colloque festival qu'on avait organisé avec un collectif de jeunes chercheuses dont Star faisait partie, et où on s'était demandé un peu où en était la poésie des femmes en France et dans le monde. Et on était allé chercher pas mal donc des figures de femmes poètes en France et à l'étranger. Et une des choses dont on s'était rendu compte, c'était que les poétesses connues étaient principalement des poétesses anglophones. Mmh. Et que même les poétesses françaises du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui citaient principalement des poétesses anglophones, que ce soit Emily Dickinson, Gertrude Stein, Sylvia Plath, Virginia Woolf. Et parmi ces poétesses anglophones, il y avait Adrienne Rich. Et moi, c'est comme ça que j'ai eu envie d'aller lire un peu ce qu'elle écrivait.
Et du coup, vous avez commencé par son œuvre poétique ou bien d'abord une partie plus théorique? Ça a été quoi votre première porte d'entrée dans...
C'était principalement l'œuvre théorique, tout simplement parce qu'elle était disponible en France à ce moment-là, et pas son œuvre poétique, ou en tout cas le tout début. C'est la première traduction des poèmes en livre est parue en 2019. Donc j'ai d'abord découvert son œuvre théorique, ses essais féministes, qui sont d'ailleurs très souvent cités en France, contrairement à sa poésie. Et ensuite, j'ai commandé les recueils en anglais et j'ai découvert sa poésie.
Oui, c'est peut-être l'occasion de préciser qu'en effet, en France, on la connaît notamment pour ce texte qui s'appelle « La contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne » qui a paru pour la première fois en 1981 dans une revue féministe bien connue qui s'appelle « Nouvelles questions féministes ». Et du coup, c'est vraiment par l'angle théorique, sa dimension d'essayiste, qu'on l'a découverte en France. Et ça teinte, en fait, jusqu'à aujourd'hui, la réception de l'œuvre en France, on peut dire ça.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Et vous, Claire Starr, c'était dans quel contexte votre découverte? Vous êtes née aux États-Unis,
oui,
donc
voilà.
Peut-être les choses sont différentes.
Exactement. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que personne qui a grandi aux États-Unis, on connaissait son travail, et surtout on connaissait son travail poétique. Pour moi, c'était quelqu'un qui était une grande poétesse. Je savais que c'était quelqu'un qui a réussi, dont les œuvres étaient disponibles, dont les œuvres étaient très possibles à partager avec plein de personnes et tout ça. Et donc, j'avais déjà un peu cette culture dans la tête. J'ai pu voir que la version que j'avais en anglais de Dream of a Common Language, rêve d'un langage commun, j'avais regardé, j'ai vu que le ticket de caisse disait que je l'avais acheté en 2013 en France.
Très précis.
Voilà, et du coup, je pensais vraiment au moment où j'essayais de me construire en tant que poète, poétesse ici en France. Et du coup, je suis allée dans dans une librairie anglophone et j'ai cherché ce livre-là justement pour m'apprendre comment écrire comme une grande poétesse. Donc, c'était vraiment par la qualité un peu de sa réception qui m'a attirée au début. Après, quelle chance que ça soit un livre qui parle explicitement de l'existence lesbienne, explicitement de d'un vécu lesbienne et d'une vécu d'une poétesse comme quelque chose qui est indissociable. Et donc c'est ça la partie qui a beaucoup resté et qui a inspiré le travail que j'ai fait par la suite.
Peut-être c'est intéressant de retracer un petit peu son parcours de poétesse dans son ensemble, parce que le texte qui va nous occuper aujourd'hui, en effet, ce sont des textes donc publiés pour la première fois aux États-Unis en 1978, mais écrits à partir de 1960. À ce moment-là, Adrienne Rich, elle a déjà 45 ans et tout un parcours de vie derrière elle. Mais sa première œuvre poétique est publiée dans les années 50, je crois. Est-ce que Lenaï Kairouyou, vous pouvez nous présenter un petit peu comme ça les grandes étapes et les textes, les recueils importants de son parcours de poétesse?
Oui, avec plaisir. Donc, Adrienne Rich, elle commence à publier dans les années, au tout début des années 50, en fait, quand elle est encore étudiante à l'université, et elle publie Change of World, qui est son premier recueil. Donc, elle est elle-même au début de la vingtaine. Et ce recueil est déjà remarqué parce qu'elle reçoit le Yale Young Poet Series Award. Enfin, bon, elle reçoit un premier prix.
Un prix littéraire très important pour des œuvres poétiques.
Qui était déjà important. Et comme ça, elle publie ses premiers recueils au début des années 50. Et puis, elle a une sorte de pause d'écriture qui correspond en réalité à sa maternité, ses maternités successives.
Parce qu'elle s'est mariée, elle a eu 3 enfants.
Exactement.
Avec son mari.
Oui, et donc elle a ses 3 enfants et elle a une période de silence poétique dont elle sort en fait à la fin des années 50, début des années 60. Elle s'installe aussi dans les années 60 à New York. Elle enseigne à Columbia University. Et là, elle commence à plonger aussi dans les milieux de la contre-culture. Bah, c'est le moment aussi où d'engagement contre la guerre au Vietnam et aussi les milieux féministes et lesbiens. Elle va enseigner aussi à CUNY College à New York. Et c'est là qu'elle publie notamment donc, The Will to Change, son recueil, je crois que c'est à la fin... des années 60.
C'est 1971, je crois.
Voilà.
Ai-je lu dans vos notes?
C'est très possible. Et bon, elle a mis fin à son mariage, elle baigne dans ces milieux féministes et lesbiens de New York, et elle va publier aussi Diving into the Wreck, donc Plonger dans l'épave, qui vient d'être traduit aux éditions du Norrois par Chantal Ringuet. Et c'est le recueil pour lequel elle reçoit en 1974 le National Book Award, qui est une des récompenses très importantes aux États-Unis.
Elle le reçoit la même année, enfin à égalité, en parallèle de Allen Ginsberg cette année-là.
Oui, absolument. Ouais. Et c'est une anecdote qui est restée célèbre, mais elle le reçoit avec Alice Walker et Audre Lorde au nom de toutes les femmes. Elles avaient fait cet accord-là. Et bon, c'est un moment important. Elle prononce un discours qui est très féministe. Et voilà, donc c'est une construction féministe progressive qui aboutit à la fin des années 70 au rêve d'un langage commun. En 1976, elle publie Of Woman Born, qui est son essai sur la maternité en régime patriarcal. Et la même année, alors que Of Woman Born est un énorme succès de librairie parce qu'elle commence vraiment à être très connue, elle publie chez une petite maison d'édition féministe, Effie's Press, les 21 Love Poems, qui sont donc les 21 poèmes d'amour, qui vont devenir la section centrale du rêve d'un langage commun. Voilà, donc c'est toute cette construction féministe progressive aussi qui se cristallise, je crois, dans ce recueil. Et au moment où paraît finalement, donc en 1978, le rêve d'un langage commun, elle est en train d'écrire La contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne, qui est donc son essai majeur, ou le plus connu en tout cas.
Donc on entend dans ce que vous dites que, et vous le disiez aussi, Claire Starr, une poète quand même très reconnue aux États-Unis, qui figure dans les anthologies de poésie américaine au même titre que de très très grands poètes américains et poétesses autres. Comment comprendre qu'encore aujourd'hui en France, il y ait de très très nombreux poèmes d'elle, recueils d'elle qui ne soient pas publiés, à commencer par le tout premier d'entre eux? Comment on peut expliquer cette différence de réception, cette méréception, si je puis dire, cette méconnaissance de son œuvre en France, Lenaï Kerriou?
Oui, c'est une question que donc beaucoup se sont posées avant nous et que se pose notamment Charlotte Blanchard dans sa thèse sur la réception et la traduction française de la poésie d'Adrienne Rich. Et elle tire plusieurs conclusions, mais en fait, c'est très étonnant parce qu'en plus, Adrienne Rich était en contact avec les féministes du mouvement de libération des femmes en France. Mmh. Elle a échangé avec elles, elles avaient une correspondance. Elle a été donc traduite, mais d'abord pour ses essais féministes dans les années 80. La raison pour laquelle elle n'a pas été traduite, c'est difficile exactement de le dire, mais bon, déjà, il y a quand même beaucoup de poétesses américaines qui n'ont pas encore été traduites en français.
Claire Starr, vous avez une idée là-dessus, vous qui voilà connaissez bien les paysages littéraires, la vie littéraire dans les deux pays. Si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave, hein, mais juste est-ce que vous avez un sentiment sur cette question?
Avec ce recueil-là, par exemple, il y a l'idée qu'il y a un certain classicisme peut-être dans ses premiers travaux, quelque chose qui était très reconnaissable pour l'époque, qui était reconnaissable aux États-Unis et j'imagine d'un point de vue français. Après, il y a quelque chose dans ce recueil-là, dans celle qui vient après, qui est vraiment un essai de faire un langage expérimental, un nouveau langage. Donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose dans cette envie de vraiment briser quelque chose dans la poésie existante qui fait que c'est un recueil qui était difficile à traduire parce que ça représente une certaine façon d'écrire dans du vers libre, par exemple, il faudrait inventer la façon de traduire ça.
Oui, c'est aussi les difficultés de traduction, peut-être tout simplement, qui expliquent que sa poésie soit aussi peu traduite. Je voudrais qu'on entende sa voix, Adrienne Rich, dans une archive. Elle parlait en 2001, une archive qui a été diffusée en 2001, un festival, pardon, de poésie au Chili, auquel elle participait en 2001, et elle parlait de sa rencontre, si on peut dire, avec la pratique poétique. On l'écoute.
I think that I began writing.
Je pense que j'ai commencé à écrire de la poésie lorsque j'étais une très jeune enfant. Mais c'est seulement lorsque je suis devenue une jeune fille que j'ai commencé à la prendre au sérieux. La poésie que je connaissais, que j'avais étudiée, qui était à ma disposition, n'était même pas celle des poètes modernistes, mais une poésie très traditionnelle, très formelle. Ce n'est qu'en arrivant à l'université que j'ai découvert ce que l'on appelle aujourd'hui la poésie moderne. Et cela a été une véritable révélation pour moi. C'est la première fois où j'ai pris conscience qu'il existait d'autres manières d'écrire que celles que j'avais apprises.
La poésie était toujours pour moi a kind of probe into the unspeakable.
Et pour moi, la poésie a toujours été une façon d'explorer l'indicible, une manière de dire autrement ce que je ne pouvais exprimer directement.
About things I couldn't speak directly about.
Une manière de sonder l'indicible, kind of probe into the unspeakable, dit-elle dans cette belle archive, où dans lequel elle raconte qu'à la fois, elle découvre la poésie petite, toute petite, mais en même temps une certaine poésie, et c'est qu'assez tardivement dans son parcours qu'elle a accès à ce qu'elle appelle la poésie moderne. Quelle lectrice était-elle de poésie? Est-ce que c'était une grande dévoreuse de poètes de son temps contemporain? Est-ce que ces poètes-là ont eu une influence sur son écriture? Parce qu'il y a quelque chose de très frappant quand on lit Le rêve d'un langage commun, à la fois la recherche d'une forme expérimentale, d'un langage nouveau, de nouvelles formes d'écriture poétique, et en même temps, on a l'impression qu'il y a aussi une forme de classicisme, qu'elle se situe aussi d'une certaine manière dans une longue lignée de poètes et de poétesses américains, américaines en particulier.
Adrienne Rich, elle est vraiment pétrie de poésie classique. Elle est née quand même dans une famille relativement privilégiée. Son père était médecin et sa mère était pianiste. Et son père a visiblement essayé de la nourrir de littérature depuis l'enfance. Donc elle a énormément lu. Dès l'adolescence, elle a traduit les poètes français en anglais. Enfin, elle a vraiment tout ce bagage classique. Elle a été aussi à Radcliffe College, qui était l'équivalent de Harvard pour les femmes à l'époque. Donc elle a... C'est une lectrice, je pense qu'on n'imagine pas tout ce qu'elle avait lu en réalité, d'où peut-être aussi le classicisme de ses premiers recueils qui vraiment sont dans des formes relativement classiques. Mais en même temps, c'est quelque chose dont elle a ressenti le besoin de le déconstruire. Elle le dit dans un article qui n'a pas encore été traduit en français, mais qui s'intitule « Writing as a revision », l'écriture comme une révision. De quelle révision elle parle, c'est réviser le canon littéraire patriarcal dont on a été nourri depuis l'enfance en tant qu'écrivaine et dont il faut en partie se défaire pour pouvoir écrire ce qu'on a besoin d'écrire. Et je pense que quand elle dit « I was unspeakable », j'étais indicible d'une certaine manière, c'est aussi ça, c'est trouver son propre langage en tant que femme, en tant que lesbienne, en tant que poète, voir comment ce qu'on va écrire diffère justement de ce qu'on a lu jusque-là.
Claire Starr, est-ce que c'est important aussi de replacer Adrienne Rich dans ce qu'on pourrait peut-être appeler une sorte de galaxie d'écrivaines, autrices qui sont ses contemporaines, qui sont aussi des féministes, des lesbiennes, qu'elle a fréquentées pour certaines. Je pense à Audre Lorde, à laquelle elle dédie un poème, mais aussi à d'autres autrices sur lesquelles vous avez travaillé, vous tout spécifiquement. Quelle place elle occupe dans ce paysage-là?
Ouais, tout à fait. C'est vrai que aussi j'ai connu un peu son travail par le biais de mes recherches sur Lorde, parce que du coup, elles sont souvent citées quatre poétesses ensemble, dont Audre Lorde, Pat Parker, Judy Grant et Adrienne Rich. Donc il y avait, je sais pas, j'ai l'impression de l'extérieur, au minimum en lisant ça, qu'il y avait un sorte de moment de poésie féministe et lesbienne des années 70 et un peu après aux États-Unis, et qu'il y avait un vrai effort de proclamer que cette chose était une forme d'art et que c'était quelque chose vraiment qui existait, qui avait des stratégies, qui avait des outils. Mais elle fait partie de ça. Après, par exemple, il y a une citation de HD qui commence ce recueil-là. Donc, il y a aussi cette chose, justement, de donner hommage quelque part à tout ce qui venait avant. Elle parle souvent de regarder dans nos histoires, de chercher des voies qui étaient bannies de ce qu'on a eu droit à accéder dans la littérature. Donc, il y a un grand travail aussi de recherche, de fouiller pour les résidus. Elle dit, des choses qu'on n'a pas des choses qui ont resté, même avec les efforts de silencer certaines personnes.
Je vais où j'aime et où je suis aimée, dans la neige. C'est comme ça que commence le recueil, cette citation en exergue de HD. On va aller vers les poèmes de ce très beau recueil, Le rêve d'un langage commun. Et pour nous y emmener, je vous propose qu'on écoute cette reprise par Léonie Pernet de la fameuse chanson interprétée par Jeanne Moreau dans le film de Marguerite Duras, India Song.
Toi qui me parles de
arrivés ensemble jusqu'ici, nous choisissant nous-mêmes, les unes les autres, et choisissant cette vie, dont chaque respiration, chaque prise, chaque pas, quelque part, est encore joué et continue. Quelques vers extraits d'un poème d'Adrienne Rich pour ouvrir la deuxième partie de notre entretien consacré à ce recueil de la poétesse et essayiste américaine paru aux États-Unis en 1978 et qui est édité pour la première fois en France cette année dans une édition bilingue, Le rêve d'un langage commun. 40 poèmes rassemblés sous forme de 3 sections dont les titres disent à eux seuls quelque chose de ce qui nous est offert là. Pouvoir, 21 poèmes d'amour, pas ailleurs, ici. 40 poèmes écrits entre 1974, l'autrice avait 45 ans, et 1977, dans un recueil amoureux pour croire en la puissance révolutionnaire du désir, écouter nos cris intérieurs, ne plus reculer devant notre pouvoir, utiliser notre amour et arroser les villes avec, être en vie pour vouloir plus que la vie, quantifier nos souffrances et régner sur le monde, faire ruisseler la joie et construire une communauté renouvelée dans et par la langue. Un recueil qui chante l'amour lesbien comme une possibilité d'entrevoir une nouvelle politique de l'amour, une ode au « nous » d'une communauté de femmes dans laquelle il est aussi question de lutte sociale, où sont citées des figures de créatrices, de voyageuses, d'aventurières et des anonymes sans voix. Une langue qui fait place au féminin et le fait entrer en résonance avec le monde tout en l'inscrivant dans les vies quotidiennes, l'ici et le maintenant, et en laissant aussi une place au silence. Ce recueil paraît dans une très belle édition bilingue qui permet de donner à lire le chant d'Adrienne Rich en anglais aux éditions de l'Arche. Et nous vous retrouvons, Lenaïg Kariyou, qui en co-signait la traduction avec Shira Abramovitch, et vous, Claire Starr, qui êtes une lectrice attentive de cette œuvre, pour parler de ce texte et de son articulation avec l'ensemble de son œuvre. Peut-être on peut préciser un petit peu ce qu'on pourrait ou pas, vous allez me le dire, qualifier d'une sorte quand même de tournant biographique dans ces années-là. On l'a un petit peu dit, mais je voudrais qu'on détaille un petit peu ce qui se joue pour elle à ce moment-là, dans les 3 années où elle écrit ces quelques poèmes. Qui veut réagir là-dessus?
Oui, c'est un moment donc où elle fait déjà figure d'intellectuelle publique dans le mouvement de libération des femmes aux États-Unis. Elle intervient régulièrement, dans les manifestations, dans les colloques, différents lieux, en fait, différents types d'espaces pour faire des discours féministes. Donc c'est déjà quelqu'un dont la voix porte, et il se trouve que d'un point de vue biographique, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a mis fin à son mariage et elle connaît ses premières amours lesbiennes.
Mariage, on peut le dire, on peut peut-être préciser aussi cet élément, parce que ça m'a frappé moi quand j'ai lu cette histoire, non que la biographie éclaire absolument l'œuvre, mais je pense que c'est important de le savoir. Elle a mis fin à son mariage, il se trouve que son mari s'est suicidé quelques années après, ou très peu de temps après la rupture de ce mariage. Donc il y a vraiment quand même cette notion de basculement dans une partie de son existence qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle a connu avant, on peut dire ça?
Oui, tout à fait, et c'est pour ça qu'elle ressent, je crois, le besoin de faire entrer tout ça en poésie. Et ça va modifier la manière dont elle écrit nécessairement. Elle le dit d'ailleurs dans la dernière section du recueil, une toute nouvelle poésie commence ici. Il y a quelque chose qui va bouleverser aussi son écriture dans ce tournant biographique.
Je voudrais qu'on présente aussi un petit peu je le disais, il y a 3 grandes parties dans ce livre qui ont en fait, vous le disiez, la partie centrale, c'est 21 poèmes d'amour. Ils ont d'abord été publiés séparément. Est-ce qu'il y a une unité spécifique de ces 3 parties? Comment on pourrait les présenter en quelques mots? Qu'est-ce qui rassemble chacun des poèmes de ces 3 parties?
En tout cas, je pense qu'il y a un mouvement dans le recueil. D'abord, on a plutôt des poèmes donc féministes au sens large, avec une sorte de galerie des portraits qu'elle dresse en fait, avec des portraits de femmes inspirantes, que ce soit à la fois des femmes célèbres et des femmes anonymes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour elle, la manière de penser le féminin, mais au pluriel. Petit à petit, on plonge dans quelque chose peut-être aussi de plus intime, avec les 21 poèmes d'amour qui sont vraiment aussi l'histoire d'un amour lesbien, de son début à la fin. Enfin, les derniers poèmes montrent aussi que cet amour se termine. Et la dernière section où elle semble prendre plus de distance vis-à-vis de ce tournant dans sa vie, il y a des choses qui sont presque cosmogoniques. Elle a la dernière partie comprend est plus éco-poétique. Elle comprend des choses vraiment sur la nature, la manière dont la nature aux États-Unis est abîmée à ce moment-là. C'est le moment aussi où on prend conscience, enfin où c'est l'éveil en fait de l'écologie. Donc il y a tout ça. Mais je crois qu'il y a une sorte de plongée dans l'intime et ensuite de prise de distance dans ces trois sections.
Je vous propose qu'on écoute un premier extrait de poème. Il s'agit d'un des tout premiers poèmes du recueil, le deuxième très précisément, qui, comme vous le disiez, fait référence à une figure qui a existé. Il s'appelle « Fantaisie pour Elvira Chataïeva ». Elvira Chataïeva, elle fut la chef d'une équipe de femmes alpinistes mortes ensemble lors d'une tempête au pic Lénine en août 1974. Et par la suite, le mari de Chataïeva a retrouvé et enterré les corps. On écoute une partie de ce poème dans laquelle Adrienne Rich prend la voix de cette femme comme si elle s'adressait à son mari. Claire Starr, vous allez commencer par nous le faire entendre en anglais.
When you have buried us, told your story, ours does not end. We stream into the unfinished, the unbegun, the possible. Every cell's core of heat pulsed out of us into the thin air of the universe.
Quand tu nous as enterrés, raconté ton histoire, la nôtre n'a pas de fin. Nous ruisselons dans l'inachevé, l'incommencé, le possible. Le noyau de chaleur de chaque cellule a jailli de nous dans l'air raréfié de l'univers, l'armature de roche en dessous de ces neiges, cette montagne qui a pris l'empreinte de nos esprits. À travers des transformations élémentaires et imperceptibles comme celles que nous avons subies, pour arriver ensemble jusqu'ici, nous choisissons nous-mêmes, les unes les autres, et choisissons cette vie dont chaque respiration, chaque prise, chaque pas, quelque part, est encore joué et continue. Dans le journal, j'ai écrit « Maintenant, nous sommes prêtes et chacune de nous le sait. Je n'ai jamais aimé comme ça. Je n'ai jamais vu mes propres forces si bien acceptées et partagées et rendues. Après la longue préparation, les premières étapes, nous avançons presque sans effort dans notre amour. » Un premier extrait de poème pour faire entendre la langue d'Adrienne Rich et quelques-uns des motifs qui sont comme ça répétés par la suite dans l'ensemble du recueil. Merci beaucoup Claire Starr d'avoir fait entendre la très belle anglais d'Adrienne Rich dans votre voix. Peut-être un mot d'abord sur cette manière de s'emparer de cette figure d'alpiniste. Je trouve ça très très beau la manière dont, à travers l'histoire de cette femme qui est présentée en quelques mots au début du poème, elle fait résonner cette histoire singulière qui se finit assez tragiquement avec une adresse assez contemporaine à l'ensemble des femmes et avec cette espèce de... Enfin, le mot qui vient immédiatement, je trouve, quand on lit ses premiers textes, c'est vraiment l'empowerment, la notion d'empouvoirment, d'adresse, d'énergie transmise aux autres femmes.
Et c'est vrai que je suis tellement contente qu'on a regardé ce poème ensemble parce que c'est un qui m'a le plus collé dans la tête les dernières années. Genre, c'est un poème que j'avais partagé avec ma mère la première fois que je l'avais lu, par exemple. Et je pense qu'il y a une chose qui a à voir à la fois avec cette histoire incroyable, mais aussi la métaphore qu'elle fait, que trouver ce langage, c'est une question de survie. Et que c'est trouver ce langage, c'est aussi une question de survie collective. Quelque chose qu'on doit trouver ensemble et qu'on choisit de faire ensemble. Et donc, c'est... Pour moi, ça fait un effet très étrange et qui me donne presque des frissons, cette idée qu'il y a cette morte, il y a cette histoire réelle, mais que dans son utilisation de cette histoire, il y a quelque chose qui donne à créer, qui appelle à créer quelque chose et qui est vraiment une sorte de, voilà, une adresse aux personnes à écrire et à trouver ensemble une politique qui sera pour elles une action qui commence dans les mots, je pense.
Qu'entendons-nous par nous? C'est le titre que vous avez donné à votre postface, qui est un titre repris à Adrienne Rich, qui était le titre qu'elle avait donné elle-même à un workshop organisé à l'université Cornell en 1982. On entend dans ce premier poème, dans ces premiers poèmes du recueil, le « nous ». Qu'est-ce qu'on peut dire de ce « nous » dans ce recueil et dans sa langue, Lenaïk Kariou?
Oui, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Il y a le terme « commun » dans le titre qui annonce aussi l'importance du collectif. Ce « nous », je crois que sa grande force dans ce recueil, c'est d'être vraiment très pluriel. On peut l'entendre vraiment à différents niveaux. C'est le « nous » des femmes, des féministes, des lesbiennes, mais c'est aussi un « nous » qui, en fait, à plein de moments, est beaucoup plus large. Et c'est ça, je crois, qui est intéressant et qui reflète aussi... le positionnement féministe d'Adrienne Rich et je crois d'autres femmes du mouvement de libération des femmes à ce moment-là, Audre Lorde aussi, une approche féministe qui est très intersectionnelle, qui pense les questions de race, de classe et comme je le disais tout à l'heure d'écologie. Enfin, en tout cas, c'est l'idée de penser des femmes, mais vraiment dans des possibilités de vie très différentes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait cette espèce de galerie de portraits où elle n'oublie pas les femmes oubliées dont on n'a pas entendu la voix. Donc ce « nous », il est pluriel, je crois, polyphonique en tout cas.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la spécificité de sa langue, de sa manière de travailler l'anglais, le rythme, avec notamment cette chose très belle qui est aussi dans la présentation des poèmes dans la page, beaucoup d'espace entre les mots. J'ai essayé de les faire un petit peu entendre dans la lecture que j'ai faite, des blancs laissés à certains endroits entre les silences. Qu'est-ce que l'anglais de Rich a de spécifique au sein des autrices, des poétesses de sa génération, Claire Starr?
C'est vrai que c'est quelqu'un qui a pensé beaucoup d'abord avec la sonorité, avec les images, elle dit, mais qu'ensuite, surtout dans ce recueil, elle dit vouloir aller d'un poésie d'image et du son vers un poésie qu'elle appelle pédagogique, un poésie qui la permet de répondre aux questions de la vie, comme qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'émancipation, des questions comme ça. Et je pense que cette format visuel que vous avez repéré avec ces blancs pour la respiration, c'est justement une sorte d'effort de créer un espace expérimental dans le langage, quelque chose qui va vers une incarnation, son propre incarnation, un effort de trouver une sorte de politique corporelle vraiment au sein d'un vers qui était autrefois classique, quelque part.
Lenaïk Kariou, vous qui avez été vraiment aux prises avec cette langue pour la traduire, qu'est-ce que vous avez ressenti au contact vraiment des mots d'Adrienne Rich? Qu'est-ce qu'on peut en dire de son rythme propre?
Je crois qu'il y a quelque chose qui pour moi est très touchant en fait justement dans ce rapport au silence qui est très important dans son travail comme vous l'avez dit parce que on sent qu'il y a un enjeu très politique comme le disait Starr à ce moment-là pour les femmes écrivaines féministes de trouver leurs propres mots et on sent aussi que ça n'est pas forcément simple, que c'est un travail, elle le dit à plusieurs moments, et que c'est toujours une lutte contre le silence. Et du coup, je trouve ça très beau qu'elle fasse apparaître ces failles-là au sein même de sa poésie, enfin, comme s'il y avait quelque chose qui se cherchait. D'ailleurs, il y a un des poèmes qui s'intitule « Cartographie du silence ». C'est toujours réussir à mettre des mots plutôt que se taire, mais on sent aussi que c'est une recherche.
Ouais, dans ce poème Cartographie du silence, elle fait référence au film de Dreyer, La Passion de Jeanne d'Arc, et elle parle aussi du silence, mais comme une manière d'approcher le visage, de la manière dont le visage de René Falconetti dans le film est scruté, ou scruté, c'est peut-être pas le mot, mais regardé comme ça en silence, et comme si la poésie devait faire cet effort-là d'une présence à l'autre qui s'incarne au cinéma à travers ce visage-là. Ce silence, c'est pas la négation du langage, c'est la manière de le faire exister d'une façon différente, on pourrait dire.
Oui, mais j'ai envie de dire aussi que c'est un refus quand même. C'est pas une négation, mais c'est un refus très fort d'y avoir été quelqu'un qui a eu du succès, qui a eu de récompenses. Et donc, je pense que c'est un refus de ce monde-là. C'est une façon de dire avec ce langage-là. On a compris que ça vient à un prix, et le prix, c'est la domination, et donc je choisis, on doit choisir ensemble de ne pas accepter ce langage-là. Et donc je pense qu'il y a vraiment une sorte de refus très génératif qui devient un essai de... en dépit de ce qu'on a, en dépit de ce qui existe dans la culture dominante, de ce qu'on a été enseigné, par exemple, de vouloir vraiment créer de ces résidus-là et de vouloir, dans le désir notamment, de trouver une façon de chercher, comme vous avez dit, avec l'autre, mais avec un langage qui, je pense, est vraiment impossible à séparer du sexe et de ce qu'elle raconte dans les poèmes d'amour, par exemple.
Je vous propose qu'on écoute un autre poème du recueil. C'est un extrait d'un poème qui s'appelle « Ressources naturelles » et dont je vais lire un passage. Il y a des mots que je ne peux plus choisir. Humanisme, androgynie. De tels mots n'ont pas de honte, pas d'humilité, face à la rage stoïque des grands-mères. Leur éclat est trop superficiel, comme une teinture qui n'imprègne pas. Les fibres de la vie réelle telle que nous la vivons, maintenant, cette couverture qui s'effiloche avec ces taches anciennes que nous tirons sur l'épaule de l'enfant malade, ou enroulons autour des jambes insensibles du héros entraîné à tuer, ce tissage, irrégulier car incomplet, vers lequel nous tournons nos mains, interrompu, encore et encore, transmis, inachevé, trouvé dans le tiroir d'une vieille commode dans la grange, la fierté et le soin disparus, nous pressant encore, pressant notre travail pour combler la brèche dans la grande nébuleuse, pour aider la terre à mettre au monde. Les femmes qui les premières ont reconnu qu'elles étaient mineuses sont mortes. L'arc-en-ciel s'envole tel un arc boutant des murs de nuages, la veine argentée et verte attend les coups de pioche, le filon obscur pleure la lumière. Mon cœur est ému par tout ce que je ne peux pas sauver. Tant de choses ont été détruites. Je dois unir mon sort avec celles qui, âge après âge, perversement, sans pouvoir extraordinaire, reconstituent le monde. Ce poème d'Adrienne Rich, extrait de son recueil « Le rêve d'un langage commun » à partir duquel on peut tirer comme ça plusieurs fils qu'on retrouve comme ça comme des motifs en correspondance avec les autres poèmes du recueil. D'abord peut-être la présence de ce qu'elle appelle la vie réelle. Vous avez parlé de la référence à la vie, c'est un terme qu'on retrouve tout du long du recueil. Et on peut peut-être expliquer ce qu'il recouvre pour elle. Et puis cette espèce aussi de présence de la nature, de la grande nébuleuse, la terre, et le lien entre la terre et la thématique très présente aussi de la mise au monde, de l'enfantement des femmes en tant qu'elles deviennent mères ou ne deviennent pas mères, mais la manière dont ça habite leur vie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux éléments-là, Léna et Carillo ?
Oui, il y a, je pense, deux choses. D'abord, moi, j'ai beaucoup aimé que vous lisiez cet extrait parce que apparaît un motif qui est récurrent dans le recueil, c'est la question du tissage, la question du fil. Les femmes sont toujours associées à ce motif-là dans ce recueil et elles sont parfois comparées à des araignées. Il y a aussi vraiment des vraies araignées qui se baladent.
Il y a beaucoup d'animaux d'ailleurs.
Dans le recueil, ouais. Il y a beaucoup d'animaux et l'araignée, on sent qu'elle est connotée très positivement chez Adrienne Rich. Elle a ce pouvoir de réparer, de tisser des liens. Et c'est ce qu'elle dit aussi dans un des poèmes de la première section. Le rêve d'un langage commun, c'est aussi de tisser des liens. Donc les femmes sont associées aussi aux soins. Elles réparent le monde. Cette expression est dans le recueil. Et donc ce motif me semble très important.
On pourrait dire aussi d'ailleurs, pardon, je vous coupe, mais j'y pense en vous écoutant, il y a aussi là, dans ce poème-là, l'idée de tisser des liens entre différentes générations, d'un lien comme ça qui nous relie, nous, femmes d'aujourd'hui, aux femmes d'autrefois, les grands-mères. C'est aussi l'une des thématiques, mais pardon.
Oui, tout à fait. Voilà. Et puis après, pour la question de la nature que vous évoquez, oui, c'est aussi très présent. En effet, il y a beaucoup d'animaux dans le recueil, il y a des phénomènes météorologiques, il y a des biches, des araignées, des insectes, il y a une lionne à qui est consacré un poème en effet, et on sent que c'est quelque chose qui est très important pour elle. Enfin, elle a une attention aussi pour le minuscule, ce qui est là mais qui fait partie du monde et qui apporte sa propre étrangeté dans cet univers bizarre dans lequel nous vivons.
Claire Star.
Je pense que tout ça est en lien avec, avec une qualité que je trouve très spécifique de ce recueil ici. C'est un effort en tant que poète de connecter ton propre travail avec ce qui se passe autour. C'est-à-dire de trouver, elle explique ça, elle dit, je veux trouver un pont dans un poème entre l'intime et l'externe, entre ma politique intérieure et ce qui se passe à l'extérieur. Il y a vraiment une idée de, il y a une citation où elle dit, elle était inspirée par Baldwin en imaginant que ce qui se passe dans le lit, c'est lié quelque part à ce qui se passe avec un état de guerre qui est extérieur. Et donc, de trouver un langage pour faire ça, je pense que la façon dont elle le fait, et ça, en tant que poète, j'adore parce que c'est vraiment très pratique, elle va tisser, comme tu as dit, les naïgues, des éléments différents, des sortes de registres différents, des images qui viennent vraiment du monde, des échelles très diverses. Et c'est à partir de ce tissage qu'elle fait des sortes de collages qu'on peut presque approcher des cut-ups quelque part, et qui font ce travail de pont qu'a dit pour faire un poème qui lie la politique, ou les deux politiques, on peut dire, de l'intérieur et de l'extérieur.
Le Book Club, c'est aussi une communauté de lecteurs, de lectrices qui lisent les ouvrages dont nous parlons et qui réagissent. Je voudrais qu'on écoute une question que vous adresse Gaëlle. Elle a lu Le rêve d'un langage commun et nous dit ceci.
Alors, la poésie d'Adrienne Rich m'a beaucoup émue parce qu'elle s'ancre dans le corps, le quotidien, les amitiés, les amours, et aussi les échecs, les défaites et parfois le découragement. Mais pourtant, on y lit tout le temps la détermination justement à déconstruire et à abattre les systèmes d'oppression et de domination. Alors, ma question, c'est parce que en ce moment, il y a beaucoup de nouvelles traductions, et je m'en réjouis, et aussi une grande vitalité à publier des autrices en langue française aussi. Il y a aussi beaucoup de performances et de lectures. Donc on est loin des rayons qui prenaient la poussière au fond des librairies avec le théâtre et puis tout le patrimoine, hein, dans le sens littéral du terme. Donc ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a autant envie de lire aujourd'hui et d'entendre de la poésie ? Merci pour votre réponse.
Et merci à vous, Gaëlle, pour cette question, question vaste, hein, sur la vitalité de la scène poétique aujourd'hui et au-delà de la scène poétique contemporaine, du fait que c'est vrai, aujourd'hui, on sent un appétit de retour à des œuvres poétiques. Comment l'expliquer et à votre avis, quelle place Adrienne Rich elle peut trouver dans ce paysage-là, Claire Star?
Bah, je peux répondre d'abord juste avec une réponse de Rich, peut-être, qui sera que la poésie, c'est l'aiguisement de la sensation et qu'une sensation qui est rendue plus forte mène à l'action. Et j'entends ça comme une sorte d'encouragement, que vraiment, c'est en lisant et en performant avec nos corps une certaine poésie qui nous paraît proche, qui parle à nous, qu'on va trouver la force pour faire le travail politique qu'il faut faire, qu'il y a vraiment un encouragement à la transformation sociale qui vient de cette sensation, cette extase presque qu'on peut avoir, mais aussi cette tristesse, cette deuil qu'on trouve dans ce travail.
Est-ce que la performance est une pratique qu'elle avait, Adrienne Rich elle-même, Lénaïque Cariou, ou qui a pu nourrir son travail poétique, son travail sur la langue?
Alors j'ai la sensation qu'elle n'appellerait pas ça performance, comme on utilise ce terme aujourd'hui, mais par contre elle faisait ce qu'on appelait peut-être plutôt des lectures publiques, et je pense qu'elle était très consciente de l'impact que peut avoir une lecture publique. Enfin, typiquement, il y a la question du collectif, du commun qui se pose dans une lecture publique. L'idée, peut-être aussi en tant que féministe, de galvaniser les personnes en face. Elle sait qu'elle a aussi un rôle peut-être de modèle, en tout cas de représentation de ce que peut être une femme écrivaine à l'époque. Donc oui, je pense que peut-être pas performance, mais lecture publique.
Ouais, lecture dans la cité, lecture qui, par son oralité, impacte aussi de manière très directe et physique celles qui viennent l'écouter. Un mot quand même, Lénaïque Cariou, pardon, sur les difficultés propres de traduction que vous avez rencontrées dans ce travail, parce que Adrienne Rich, il y a tout un travail, par exemple, sur la féminisation de certains termes, hein, l'empouvoirment dont je parlais, il passe aussi par là, par la féminisation de certains termes. Vous êtes retrouvée confrontée très directement à cette question-là, à travers le fait que en anglais, certains termes sont neutres et qu'il s'agit, quand on les passe au français, de choisir un genre. comment ces problèmes-là se sont posés dans le travail ?
Oui, alors en effet, un des enjeux principaux de la traduction avec Shira Abramovitch, ça a été la question du genre, parce que c'est vraiment ce qu'elle travaille fortement dans ce recueil. À chaque fois, quand on traduit de l'anglais au français, le genre est traité différemment en anglais et en français. Et notamment en anglais, il y a souvent des termes neutres qu'on est obligé de genrer en français, ou sauf si on utilise l'écriture inclusive ou d'autres tours divers de traduction. Mais donc là, par exemple, un des problèmes très concrètement qui se posait, c'est que souvent, au début des poèmes, elle fait exprès d'utiliser des termes qui sont neutres. Et ensuite, au fur et à mesure du poème, on se rend compte qu'en réalité, elle parle de femmes. Donc il y a comme ça un effet un peu de suspense, et elle joue en fait avec les attentes des lectrices et des lecteurs, qui est que en fait spontanément on va projeter du masculin sur quand le genre n'est pas explicité. Et ça a été une chose qui a été très difficile à garder, on n'a pas pu toujours le garder. Et ensuite elle fait vraiment un travail de féminisation de la langue, comme vous le disiez, où elle va féminiser des termes qui normalement sont neutres en anglais en utilisant un pronom féminin. Par la suite, elle le fait avec une biche, avec un arc-en-ciel, avec une mineuse. Justement, le terme n'existe pas vraiment en français. On a créé ce néologisme. Mais donc, il y a eu des enjeux comme cela sur les questions de genre.
Et vous, Claire Starr, qui pouvez du coup... l'anglais est votre langue maternelle. Vous pouvez bien sûr lire Adrienne Rich dans sa langue d'origine. Mais est-ce que c'est intéressant pour vous aussi de lire le passage au français? Est-ce que ça nourrit aussi votre travail par ailleurs? Qu'est-ce que ça apporte, la traduction de poèmes comme celui-là vers le français?
Tout à fait pas. Je pense qu'il y a un vrai enjeu dans son travail d'écrire dans un langage simple. Un langage simple qui a les sonorités, même si c'est une sonorité pédagogique, comme on l'a dit plus tôt, mais qui a un envie d'avoir une sorte de poésie qui n'est pas élitiste, qui est accessible. Et genre, par exemple, dans ce sens, c'est qui le « je » ou le « nous » dans ses poèmes. Je pense qu'elle dit à un moment qu'il ne faut pas une personne qui dit « je », il faut plusieurs personnes qui disent « non ». Et ça, « nous » qui dit « non ». Et je trouve ça tellement incroyable et inspirant dans ce recueil. Et c'est un peu l'effet qu'on souhaite dans la traduction, c'est que ça devient quelque chose qui est facile à lire, qui est facile à partager, qui peut... unir des personnes autour de certaines questions et qui peut faire cette qualité de la sensation, du sentiment dont elle dit est très important pour ensuite pouvoir agir.
Je voudrais qu'on dise un dernier petit mot sur Gaëlle, l'auditrice qu'on a entendue, parlait de son émotion à la lecture de ses poèmes aussi parce qu'ils sont très ancrés dans une forme de quotidien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui frappe. Il y a beaucoup de ses poèmes, on a l'impression d'avoir un effet de miroir de nos vies à toutes et tous, dans des choses vraiment de détails, de descriptions de la coquille d'un œuf qu'on gratte quand on nourrit un enfant. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Lénaïque Cariou, sur cet aspect-là précisément?
Oui, alors je crois que c'est quelque chose qui est très présent, notamment dans les 21 poèmes d'amour. Il y a quelque chose vraiment de très quotidien. Elle raconte, elle rentre chez elle, elle se fait un peu violenter par un vieux dans l'ascenseur, mais elle rentre chez elle et elle met Nina Simone, Here Comes the Sun, et à la radio, et c'est bon, ça va mieux. Enfin, elle a des petits détails comme ça aussi de leur vie amoureuse avec cette amante-là en l'occurrence, notamment dont elle parle, peut-être on l'a pas dit, il y a un 22e poème d'amour au cœur du recueil qui est caché et qui parle de l'amour physique entre deux femmes et qui est une sorte de centre un peu névralgique du recueil. Donc il y a plein de petits détails comme ça en effet.
Ouais, ce poème non numéroté s'appelle Le poème flottant et je voudrais vous le lire pour conclure cette conversation. Quoi qu'il nous arrive, ton corps entra le mien. Tendre, délicat, ta manière de faire l'amour, comme la fronde à demi courbée des crosses de fougères dans les forêts, tout juste baignées de soleil. Tes cuisses voyageuses, généreuses, entre lesquelles mon visage entier est venu encore et encore, l'innocence et la sagesse de l'endroit que ma langue a trouvé là, la danse vive, insatiable de tes mamelons dans ma bouche, ton contact sur moi, ferme, protecteur, qui me cherche, ta langue forte et tes doigts fins me touchant là où je t'ai attendu pendant des années, dans ma grotte rose mouillée. Quoi qu'il arrive, il y a ça. Voilà, juste ce tout dernier poème pour faire entendre l'amour comme force subversive dans la langue. Mais l'heure tourne, déjà le Book Club continue. Et à 15h50, comme chaque mardi, nous retrouvons Nicole Vulser qui vient nous parler du livre sous son angle économique. Bonjour Nicole.
Bonjour Mathilde.
La semaine dernière, Nicole, vous vous êtes rendue aux Assises nationales de l'édition indépendante qui se sont tenues du 19 au 21 février à Bordeaux. L'occasion pour vous de nous éclairer sur ce secteur de l'édition indépendante.
Oui Mathilde. Et il a été question d'histoires de tourments et de passions, de problèmes financiers à la chaîne, mais aussi de vrais paris sur les jeunes auteurs, des défis intellectuels et une défense des voix singulières. Il a été question de tout cela pendant ces 3 jours à Bordeaux pour ces deuxièmes assises nationales de l'édition indépendante. D'abord, éclairons les choses. Les maisons d'édition indépendantes sont celles qui réalisent moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous allez voir qu'elles n'atteignent pas ce seuil et n'appartiennent à aucun groupe, soit près de 2500 éditeurs en France. Pour mieux connaître leur santé économique, une étude réalisée par le cabinet Axial nous a ainsi appris en moyenne, elles ont réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 164 000 euros, mais surtout leur rentabilité est négative, à moins 1,1% par rapport à leur chiffre d'affaires. Elles perdent donc un peu d'argent et restent très frugales dans leurs embauches. En général, on ne compte que 2 salariés dans ces toutes petites structures. Pour subsister, 2/3 d'entre elles ont recours à des aides publiques qui viennent du Centre national du livre, des régions ou des directions régionales des affaires culturelles. Un enseignement précieux au moment où certaines régions, comme celle des Pays-de-Loire, taillent à la tronçonneuse dans leurs aides à la culture. Ces toutes petites entreprises publient chaque année en moyenne 9 nouveautés, essentiellement en littérature générale, jeunesse, sciences humaines et sociales ou encore des livres d'art. Les auteurs de cette étude ont dévoilé le sort peu enviable de ces dirigeants d'entreprise. Ils ne font pas ce métier pour faire fortune, c'est clair. La moitié d'entre eux perçoivent moins de 15 000 euros par an et doivent donc, sans surprise, exercer une activité parallèle. Sans compter que cette profession s'avère extrêmement chronophage, puisque les dirigeants travaillent en moyenne 9 week-ends par an dans des festivals ou des salons.
Alors, qu'est-ce qui les pousse à exercer ce métier ?
Honnêtement, Mathilde, j'ai été surprise par les déclarations passionnées que j'ai pu entendre au cours de ces assises. Bon nombre d'éditeurs se considèrent comme des militants. Ils mettent en avant leurs affinités électives et la joie de découvrir des jeunes auteurs. Grâce à la constitution d'un réseau d'éditeurs, de libraires et de diffuseurs, eux aussi indépendants, ils défendent des valeurs communes. Par exemple, en Suisse, un collectif de 8 éditeurs, baptisé les Insécables, s'entraide aussi bien pour lever ensemble des fonds publics que pour donner un coup de main à l'un des éditeurs dont la cave a été inondée.
Alors malgré ces dispositifs de solidarité, quelles sont les principales difficultés auxquelles ils sont confrontés, ces éditeurs ?
La précarité d'abord. Ils sont bien obligés de tout gérer à l'économie et quand ils gagnent de l'argent, ils en font des réserves pour passer les caps difficiles. La maison d'édition de BD et de romans graphiques, ça et là, a frôlé 2 fois la faillite en 2009 puis en 2018, avant d'obtenir le prix du meilleur album au Festival d'Angoulême en 2023 avec La couleur des choses de Martin Panchaud. Des hauts et des bas, comme des montagnes russes. L'autre problème récurrent tient à l'invisibilité de la production de ces éditeurs. Tous se plaignent de ne pas réussir à obtenir la place qu'ils espèrent, notamment dans les librairies qu'ils accusent de faire la part trop belle aux grands groupes comme Hachette, Editis, Madrigal ou Média Participation. Tous regrettent une moindre mise en place de leurs livres et les nouveautés, chassant les nouveautés. Ils déplorent que le délai pour imposer leurs nouveaux ouvrages en librairie se réduise chaque jour davantage. Ce qui agace aussi les éditeurs indépendants, c'est qu'ils ont l'impression fâcheuse de servir de pépinière aux gros éditeurs. Comme l'a expliqué l'éditeur de BD Vincent Henry, ces petites maisons d'édition dénichent de jeunes talents, investissent pour publier leurs premiers ouvrages, mais bien souvent, dès que leur poulain accède à une belle notoriété, les grands groupes leur proposent des offres alléchantes, voire irrésistibles.
Alors, quelles pistes ont été évoquées pour améliorer leur sort ?
Déjà, Mathilde, un nouvel outil de gestion baptisé Hoplibris devrait leur permettre de gagner beaucoup de temps puisqu'il réunira sur une même plateforme toutes leurs tâches, comme les commandes, la gestion des stocks, les droits d'auteur, le dépôt légal et j'en passe. Certains éditeurs ont plaidé pour la création d'un label des éditeurs indépendants. D'autres ont souhaité un vrai statut pour leur profession. Les plus optimistes, comme Dominique Tourte, directeur de la Fédération des éditions indépendantes et fondateur de la maison d'édition Invenit, considère qu'il est temps de réaménager une nouvelle loi sur le livre pour limiter la concentration et la taille des grands groupes. Il a également été question de récupérer une idée venue du Québec pour organiser un festival d'une journée dédié à l'édition indépendante, quelque chose de résolument festif.
Et on est heureux que cette chronique se termine sur une idée festive, Nicole. On continuera de suivre l'actualité des éditeurs indépendants ici au Book Club. Un grand merci, Nicole. Votre chronique « L'économie du livre » est à retrouver sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Comme chaque jour, en fin d'émission, nous jouons à notre grand jeu des pages musicales. Nous lisons le passage d'un livre dans lequel est cité un morceau de musique et ce grâce aux suggestions que vous nous envoyez. Elles sont précieuses via le compte Instagram de l'émission ou via notre adresse email lebookclub@radiofrance.com. Mais aujourd'hui, on a trouvé de la musique dans le livre qui nous occupe, Le rêve d'un langage commun d'Adrienne Rich. C'est un passage du quatrième poème d'amour qui en compose la partie centrale. J'entre dans la cuisine, dépose mes paquets, fais du café, ouvre la fenêtre, je mets Nina Simone qui chante « Here comes the sun ». J'ouvre le courrier en buvant du café délicieux, musique délicieuse, mon corps encore léger et lourd de toi. Du courrier tombe une copie de quelque chose écrit par un homme de 27 ans, un otage, torturé en prison. Mes organes génitaux ont fait l'objet d'une telle démonstration sadique que la douleur me tient constamment éveillée. Faites ce que vous pouvez pour survivre. Vous savez, je pense que les hommes aiment les guerres. Et ma colère, incurable, mes blessures irréprisables s'ouvrent plus profondément avec mes larmes, je pleure désespérément, et ils contrôlent encore le monde, et tu n'es pas dans mes bras.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right.
Très grand merci Lénaïque Carillou et Claire Starr d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ce recueil « Le rêve d'un langage commun » d'Adrienne Rich pour la première fois, qui paraît pour la première fois en France dans une très belle édition bilingue aux éditions de l'Arche. Et puis j'en profite aussi pour indiquer la parution toute récente et parallèle de « Le sens de notre amour pour les femmes », deux discours d'Adrienne Rich qui datent des années 70 également, aux éditions Les Prouesses. On indiquera aussi sur le site d'autres textes d'Adrienne Rich qu'on peut trouver en français. À la réalisation aujourd'hui, c'était Anna Holweck. Au son, c'était Olivier Arnay. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Léa Weisgruss, Oriane Mignot, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Louise Hoth et Alexandre Alaï-Pekovitch.